Salut François, ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Ouais, je t'ai écouté hier à TVA Sport avec Jacques Doucet, puis je me suis rappelé à quel point tu m'as dit dans les dernières années, ça fait quelques années déjà qu'on se parle en nombre dans mon émission, puis tu m'as rappelé à quel point tu avais adoré le passage de Jacques ici avec les Capitales. Je me souviens pas trop ça a duré combien de temps, mais je t'écoutais faire le match à la télé avec lui, puis je me disais, Colin, François, c'est le fun, il peut revivre un peu ce qu'il avait fait à l'époque de la radio quand Jacques était venu faire les Capitales.
Oh, c'est exactement ça, parce que les gens se rappellent peut-être pas, mais il est quand même resté 6 ans avec les Capitales.
Honnêtement, là, j'aurais pas eu la réponse.
Non, puis les Expos sont partis en 2004, donc 2005, je pense qu'il avait travaillé un petit peu peut-être avec les gens de RDS, puis 2006 à 2011, il a travaillé avec nous autres, ça avait été fantastique. Puis souvent, l'anecdote qui m'avait frappé, c'est qu'un genre qui est arrivé, j'avais peur qu'il arrive avec ses gros sabots là pour nous dire qu'est-ce qu'on allait faire, puis ça avait été tout le contraire. Puis il m'avait dit, puis ça m'avait marqué, il m'avait dit, garde, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre sur le baseball, mais il dit, t'as beaucoup de choses à m'apprendre sur les Capitales puis la Ligue Can-Am. Puis en partant, tu dis, c'est la chimie s'est créée.
Ouais.
C'est sûr que la seule chose qui est plate dans les circonstances, c'est que c'est en raison des problèmes de santé de Derek qui fait en sorte qu'on se retrouve à travailler ensemble. C'est le seul côté négatif, parce qu'évidemment, on souhaite jamais de malheur à personne. Mais quand j'ai eu la chance de retravailler avec, on dirait que c'est exactement à quoi j'ai pensé des belles années avec les Capitales. Puis là, on a la chance de faire une série ensemble, puis on a hérité de la série entre les Nationals et les Dodgers, qui pour moi était la plus intéressante sur papier. Puis je pense que c'est devenu... je vais dire, les deux séries dans la Nationale ont vraiment donné un très, très bon spectacle. Puis là, on se retrouve avec un match numéro 5, Strasburg-Bueller, mercredi soir, ça va être... fantastique. Vraiment hâte de voir comment ça va se passer, mais jusqu'ici, le spectacle a été très bon.
Toi et moi, on est de la région de Québec, puis on fait des médias depuis longtemps à Québec, puis ça nous est arrivé d'aller à Montréal à l'occasion, puis des fois, nos chums, ils nous disent « Ouais, un tel, il est-tu smart avec toi? » Puis un tel, il a l'air fraîchi un peu, puis lui, en tout cas, remets-le à sa place. T'sais? Bon, c'est le genre de discussion qu'on a avec nos chums quand on a à aller faire de la radio ou de la télé à Montréal. Et tu disais tantôt, toi, tu as tout le temps eu une admiration pour Jacques Doucet, puis tu en as encore une très grande, puis ça paraît dans tes propos, puis tu es très content du 6 ans que tu as fait avec lui chez les Capitales, mais lui te respecte énormément aussi. Et ça, pour moi, ça fait de Jacques Doucet, il y en a d'autres au Québec, mais ils sont pas tous comme ça, ça fait de Jacques Doucet un gentleman dans la mesure où j'apprends que lui, il est capable de reconnaître en François Paquette des qualités. Souvent, on a tendance à souvenir des gens de Montréal qui nous regardent de haut, puis c'est vraiment pas le cas avec Jacques Doucet.
Oh non, pas du tout. Puis j'ai souvent dit, même si j'ai la chance de faire des matchs à TVA Sport, c'est grâce à Jacques. Là, c'est pas parce que quelqu'un à TVA Sport qui écoutait Capitales en série qui disait que là, ce serait peut-être pas pire. Là, c'est quand il cherchait du monde, c'est Jacques qui a dit hey, je connais quelqu'un. Fait que là-dessus, écoute, il n'y a jamais de question de rivalité. On est devenus amis du jour au lendemain. C'est à partir du moment où on a travaillé ensemble, ça a tellement cliqué. Puis moi, je disais toujours à Jacques, on n'a pas eu la chance de faire un match de pratique, mais j'ai dit à un moment donné, Jacques, j'ai tellement écouté de matchs à la radio dans le temps que je savais à quoi m'attendre parce que je sais comment tu travailles.
Mais
il y a une chose qui m'a frappé, puis quand je fais un match, j'aime ça être bien préparé, puis tu sais que mes notes soient prêtes quand je commence.
Ça paraît.
Et écoute, à côté de Jacques, là, c'est je fais la moitié du travail qu'il fait. C'est hallucinant. Quelqu'un là, tu sais, préparé là, des notes pour tous les joueurs, les équipes. Puis en plus, tu comprends qu'il y a un bagage d'anecdotes à raconter. Ouais. C'est même les arbitres et tout ça. Fait que c'est fantastique. Pour moi, c'est presque du travail. C'est presque pas du travail. Tu vas regarder du baseball, travailler avec quelqu'un avec qui tu as du plaisir, puis en plus, qui va t'en apprendre à tous les jours. Je me considère plus que chanceux, c'est privilégié ce que je peux vivre depuis maintenant 4 ans à Montréal.
Mais tant mieux. François, je vais faire un parallèle boiteux, tu me ramèneras à l'ordre. Est-ce que si les Dodgers perdent le match 5 contre les Nationals, on pourrait comparer ça à l'élimination du Lightning au printemps dernier?
Pas autant, mais écoute, ça va être une très, très, très grosse déception. Mais je pense que le Lightning a tellement dominé l'année passée là, d'un bout à l'autre, puis dans toutes les catégories offensives, t'as l'impression que c'était vraiment la meilleure équipe. Puis tu perds quand même contre le club qui s'est classé pour les séries à la dernière journée. C'est peut-être pas autant que ça, mais pour les Dodgers, moi je l'ai dit dès que ça a commencé, il y a de la pression parce que t'es la meilleure équipe dans la Nationale, mais surtout parce que t'as perdu les deux dernières séries mondiales. T'sais, les gens s'attendent à ce que tu y retournes, s'attendre à ce que tu gagnes aussi. C'est pas mal de pression, mais j'ai trouvé quand même que Dave Roberts a bien géré la situation en disant cette année, c'est la passation des pouvoirs. Là. C'est Walker Buehler qui a lancé le match numéro 1 et pas Kershaw. Puis c'est Buehler qui va lancer le match numéro 5 puis pas Kershaw. On va peut-être le voir, Kershaw en relève. Mais tu vois que c'est vraiment, on est rendu à l'étape où là, c'est pas le temps de faire plaisir à notre vétéran. Il faut gagner des matchs. Puis tu sais, Dan, un match 5, quand tu affrontes Strasbourg, là, ça se peut que ça finisse 2-1 puis que ça finisse pas de ton bord. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment les Dodgers vont se comporter. C'est un club de vétérans. Il y a beaucoup de munitions pour Dave Roberts aussi parce qu'il y a un très bon banc. Fait que j'ai hâte de voir qui est-ce qu'il va mettre dans le line-up pour ce gros match pour les Dodgers.
OK. Les Cards jouent avec les émotions de leurs partisans. ils se sont fait remonter avant-hier 3 points en 9e manche contre les Braves. Puis hier, ils ont gagné en 10e. On aura un match 5 également dans cette série-là. J'aime les jeunes Braves et j'ai un immense respect pour l'organisation des Cards de Saint-Louis. Je te dirais que dans cette série-là, François, je vais te faire un aveu, je sais pas trop pour qui prendre.
Ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis, tu sais, dans la série qu'on parlait précédemment, j'ai un petit faible pour les Nationals pour avoir peut-être un petit peu de nouveauté, mais j'aime quand même les Dodgers, c'est un bon club. Mais cette série-là, tu sais, il y a des choses que j'aime, il y a des joueurs que j'aime, des joueurs que j'aime moins. Les Braves, on a toujours eu une note négative parce qu'ils ont tellement fait mal aux Expos qu'on dirait que c'était dur de les aimer. Moi, je suis un partisan des Cubs. Évidemment, les Cards, c'est toute une rivalité. Mais je vais t'avouer que, moi, je regarde le match numéro 5, je pense que t'sais, les Cards ont un petit avantage avec leur carte cachée qui est Jack Flaherty qui va lancer. Et Flaherty, là, c'est un gars qui probablement qui va gagner quelques trophées Cy Young. Ça a été le meilleur lanceur de la Ligue nationale après la pause du match des Étoiles. Puis je pense que les Cards vont arriver là très, très confiants. Mais en même temps, tu dis, les Braves, c'est comme une équipe jeune qui parfois fait, t'sais, on va faire des bévues, on a vu Acuna une couple de fois qui a pas couru sur des balles qui pensaient que c'était des circuits, puis on l'a même mis sur le banc durant la saison pour des jeux comme ça, puis mais ils sont tellement talentueux puis explosifs, puis s'il faut que Freddie Freeman se réveille en plus, ils ont certainement une chance de faire un bout de chemin. Puis veut pas, Dan, tu sais, si les Nationals venaient qu'à gagner de l'autre côté, l'équipe qui gagne entre Saint-Louis et Atlanta va peut-être être favorite pour la série de championnat. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler, mais jusqu'ici, cette série-là a été très excitante, très intéressante. Puis même si tu prends les devants, Melançon d'un côté, Martinez de l'autre, ce sont pas des closers de premier plan. Fait qu'on a vu ce que ça donne dans les fins de match.
OK, François, je regardais les Yankees jouer contre les Twins hier. Ils ont balayé les Twins en 3 matchs. Pourtant, les Twins, c'est l'équipe qui avait frappé le plus de coups de circuit en saison régulière. Je pense même qu'ils avaient établi une nouvelle marque du baseball majeur. La formation partante au bâton des Yankees pour le match d'hier. Lemahieu, Judge, Gardner, Encarnacion, Stanton, Torres, Sanchez, Gregorius et Urshela. Je m'excuse, François, mais il faut que tu me convainques ce soir dans l'émission que cette formation de frappeurs-là, elle est moins bonne que la gang à Jeter des années 90? Je suis pas certain.
Oh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a certainement des comparaisons à faire, mais écoute, dans les belles années de Bernie Williams, tu sais, Posada, Jeter, Tino Martinez, puis écoute, j'en oublie, il y en avait tellement.
Mais me semble qu'à l'époque, oui, il y avait de très gros noms, mais me semble qu'à l'époque de Jeter, il y avait un ou deux, je dirais, maillons un peu plus faibles. Dans les 9 gars que je viens de te nommer, il n'y en a pas de faiblesse.
En tout cas, pas pour cette année, parce que tu sais, il y a des gars comme Urshela et tout ça qui, tu sais, qui ont jamais frappé de leur carrière, mais que cette année, c'est incroyable. Puis t'as une couple de gars de séquence là-dedans. Moi, tu sais, des gars comme Stanton et Gregorius, là, quand ça va bien, mais quand ça va mal, c'est des machines surtout dans le cas de Stanton, à retour au bâton. Il y a une couple de gars de séquence là-dedans, mais c'est un club qui est très, très, très équilibré. J'étais curieux de voir comment ça allait se dérouler, mais tu sais que dans le match hier, les Twins ont frappé une coupe de balle sur le nez, mais jamais capable de trouver le trou. Puis finalement, ben, les Yankees, tu remarques dans la série, ils ont marqué, je pense, c'est 10, 8 puis 5 points. Ça vient qu'à dire, il faut que tu marques au moins 5 points dans un match si tu veux les battre. Fait que j'ai hâte de voir, mais tu sais, pour le bien du spectacle, donc j'espère que les Astros vont gagner.
Oui, là,
simplement
oui, oui,
pour qu'on ait tout le monde qui aime le baseball, tout le monde veut voir un Astros Yankees, puis j'espère que c'est ce qui va se passer.
Mais en deuxième manche du match d'hier, au moment où les Twins avaient les buts remplis avec aucun retrait, ils n'ont pas fait un seul point. Ballon à l'avant-champ de Miguel Sano et 2 retraits au bâton par la suite de Severino. C'est là que le match s'est joué, même si ça s'est terminé 5-1. Et peu importe le niveau, que ce soit Moustique 2A, les Diamants de Québec ou les Twins, si tu remplis les buts en deuxième puis tu fais pas de points avec aucun retrait, tu te donnes pas beaucoup de chance pour la suite.
Non, puis en plus que tu perdais déjà 2-0 dans la série. Ça a été le point tournant, je suis entièrement d'accord avec toi, parce qu'on se disait qu'à partir de ce moment-là, on dirait que la confiance était ébranlée. Puis là, c'est ça, tu as eu une coupe de chance sur des balles frappées en flèche, mais il faut donner le crédit aux Yankees, puis donner le crédit à Gleyber Torres, qui a joué tout un match.
Absolument.
Trois coups sûrs et deux jeux en défensive. Fantastique.
Puis
ce gars-là a juste 22 ans.
OK. Au hockey de la Ligue nationale maintenant, ma première question est la suivante pour toi. Est-ce que Samuel Blais pourrait être le joueur oublié de nos différents poules?
C'est une bonne question parce que nous, cette année, on fait notre pool un petit peu plus tard. C'est vendredi qui s'en vient. T'sais, il va déjà avoir une semaine de jouer, une semaine et demie. Puis j'avais ciblé 2-3 joueurs. Puis dans les joueurs que j'avais nommés, c'était Victor Olofsson avec les Sabres de Buffalo. Et Samuel Blais avec les Blues de Saint-Louis.
Parce que je me disais, ces deux gars.
Écoute, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler parce que, tu sais, quand tu fais un pool et c'est commencé, Mika Zibanejad va probablement sortir deux rondes plus de bonheur, avec 8 points dans ses deux premiers matchs. Mais dans le cas de Blais, puis écoute, je l'ai adoré en série l'année passée. Je pense qu'on le sait tous que ce gars-là est capable de récolter des points. C'est pas juste un grinder, là, c'est un gars qui a du talent. Fait que je pense que c'est un gars qui mérite, si c'est pas. Écoute, ça dépend combien vous êtes et combien vous faites de rondes dans votre pool, mais c'est un beau guess à prendre en fin de pool pour dire il pourrait être rapporté. Puis Victor Olofsson, je suis un peu intrigué aussi à Buffalo. C'est un gars qui a récolté un point par match dans la Ligue américaine.
Exact.
Hier, il a joué 20 minutes hier encore. Fait que je trouve que c'est le genre de gars aussi qui pourrait être une belle surprise, mais tu sais comme moi, Dan, tu peux le prendre, puis dans deux semaines, il va jouer 8 minutes par match. Tu te retrouves dans la Ligue américaine. T'as toujours les bons et les mauvais côtés avec ces jeunes recrues.
Tu te souviens du dicton qui dit que quand Crosby est pas là, Malkin prend les choses en main puis il joue quasiment mieux que quand Crosby est là. On l'a vu dans le passé. Puis là, Evgeny Malkin va manquer au moins un mois avec les Pingouins. Il est entré en contact avec Christopher Letang au centre de la patinoire en fin de semaine puis finalement, il est blessé à une jambe. Mais tu sais quoi, François? Je me suis dit... OK, on dit tout le temps que Malkin prend la relève quand Crosby n'est pas là, puis Crosby nous a fait peur. On pensait qu'elle allait mettre un terme à sa carrière à 27 ans. Différentes commotions, puis des années pas complètes à pas jouer, mais presque. Là, je me suis dit, OK, Malkin est blessé. Est-ce que Crosby prend les choses autant en main quand Malkin n'est pas là? Sûrement que oui. Puis là, je me suis dit, je vais aller voir Malkin, voir. Il en manque-tu souvent des matchs? Et boy! Il en manque bien plus que je pensais.
Oh oui.
La dernière saison complète d'Evgeny Malkin dans la Ligue nationale, 82 matchs, c'est en 2008-2009, l'année de leur première coupe. Depuis ce temps-là, il a joué 67 matchs, 43 matchs, 75 matchs, 31 matchs est correct, c'est l'année du lockout, tout le monde en jouait 48, mais il a quand même joué 31 sur 48, 60, 69, 57, 62... 78 il y a deux ans, puis 68 l'année dernière. Finalement, il est souvent blessé, Malkin.
Puis ça faisait partie aussi de ma réflexion dans un pool de hockey, là, quand tu arrives un peu plus loin, puis tu te dis, est-ce que ce gars-là, s'il manque un mois et demi, combien de points il peut me donner dans une saison?
Ouais.
Mais là, tu es rendu au point que tu te dis plus, quand il va revenir, ça va prendre combien de temps avant qu'il se reblesse? Puis je me demande, Dan, puis je pense que les rumeurs ont circulé, mais je me demande si les Pingouins ont poussé. À quel point ils ont poussé pour essayer de l'échanger dans les derniers mois. T'sais, on a entendu la rumeur qui était disponible.
Ouais.
Il est rendu à 33 ans. Et puis écoute, là, on va s'entendre, il a eu une très belle carrière.
Oui.
Ovechkin a été meilleur que Malkin, mais c'est pas comme si Malkin avait été un mauvais choix. Oh, il a eu une très, très belle carrière. Mais là, tu arrives au point où il va être difficile à échanger, où il va perdre la valeur. Ça reste qu'en santé, je pense que c'est ton deuxième meilleur joueur. Mais quand je regarde les Pingouins perdre Malkin et Bjugstad, tu sais, le même soir, c'est plus les Pingouins qu'on a connus en 2008-2009. C'est pas le même club, la même profondeur. J'ai hâte de voir comment ils vont se relever de tout ça. Mais tu l'as mentionné, Crosby est capable de prendre la relève, mais on n'est pas aussi bien entouré. Puis il y a un gros manque de profondeur. Puis je vais même ajouter un manque de stabilité devant le filet parce que on a eu quelques surprises, quelques mauvaises surprises dans la dernière année. Fait que là aussi, il faut que ça se replace pour que les Pingouins soient un club encore très compétitif.
OK, dernier point sur lequel je veux m'arrêter avec toi, c'est Steven Stamkos. Il a fait une sortie alors que son équipe a 3 matchs de jouer dans la saison. Stamkos a dit, on joue mal, on a du talent, mais on se fie juste à notre talent. Puis si on se replace pas, la saison va être vraiment longue. J'adore ce genre de sortie d'un capitaine. Il y a trop d'équipes dans la Ligue nationale qui ont négligé le poste de capitaine dans les dernières années. Si le Lightning n'avait pas eu de capitaine dans les dernières heures, c'est qui aurait dit ça?
C'est une bonne question, mais ma première réaction, moi, ça a été, est-ce que c'est trop de bonheur pour dire ça? tu sais, il y a 3 matchs de jouer, tu fais une petite réunion d'équipe pour s'assurer que tout le monde est à même
longueur.
Ouais,
mais en même temps, oui, OK, mais en même temps, François, le troisième de ces 3 matchs-là, c'est en Caroline dimanche, ils ont perdu en prolongation 4-3. Les tirs au but, c'est 44-16 pour la Caroline.
Oui, si je ne me trompe pas, je pense qu'en deuxième, ils n'ont pas eu un lancé, ce qui est assez incroyable avec un club comme ça. Mais après, tu sais, après réflexion, puis la façon dont tu l'as mentionné, je pense que tu préfères que ton capitaine se lève tout de suite pour dire, hey, les boys, on n'attendra pas au 53e match pour voir comment ça se passe. Tu sais, la déception de ces gars-là de l'an passé, elle est encore très, très vive. Tu sais, c'est partout où tu passes, on dirait que c'est la première question qu'ils vont te poser. Comment te relever d'un balayage en première ronde contre Columbus? Puis, tu sais, je pense que les gars sont encore très frustrés de ce qui se passe. Mais il y a une chose, par exemple, Dan, c'est qu'à un moment donné, si, tu sais, ils vont avoir des problèmes de plafond salarial chez le Lightning d'ici quelques années, c'est peut-être Stamkos qui va partir dans le lot, par exemple, parce que c'est lui qui est un petit peu plus vieux que le reste. Fait que je pense qu'il faut qu'il démontre comme capitaine, comme leader, que non seulement il peut continuer à marquer des buts, mais que c'est vraiment le leader que tu as besoin pour aller loin en série. Puis c'est une année qui est déterminante pour lui, pour John Cooper, puis pour bien du monde dans l'organisation. Si on parle pas juste, évidemment, d'aller chercher le premier rang au classement général, mais d'aller chercher la Coupe Stanley.
Mais sur la fin, 8,5 par an, c'est encore la meilleure équipe de la Ligue.
Ah, aucun doute. C'est même pas proche.
Toronto s'en vient pas pire. Toronto s'en vient pas pire.
Mais habituellement, il y a une équipe, tu vas dire, hey, il me semble que, tu sais, devant le filet, le pantoute, le Vasilevski est là. Et moi, j'ai trouvé, tu sais, quelques ajouts, là, comme Shattenkirk, puis des choses comme ça qui n'ont pas coûté cher. Je trouvais que c'est tellement des belles chances à prendre pour un club comme ça. C'est de loin le meilleur club. Pat Maroon, hey, gagnant la Coupe Stanley, un gros bonhomme comme ça qu'on n'avait pas nécessairement la tonne dans cette équipe-là. Mais est-ce que c'est un club qui est fait pour gagner des matchs en série? Ça, c'est la grande question, parce que c'est pas le club le plus talentueux qui gagne souvent, c'est le club le plus tough, capable de gagner toutes sortes de matchs.
Ouais.
Puis, veut pas, l'année passée, ça nous a laissé un gros, gros, gros point d'interrogation. Fait que je suis curieux de voir si c'est assez pour aller jusqu'au bout, mais sur talent pour talent, il y a personne qui peut challenger cette équipe.
Mais d'amener Pat Maroon, un gars qui venait de gagner la Coupe, dans une équipe où, au premier match des séries, dans la tête de plusieurs joueurs, il va avoir des points d'interrogation, c'est un fit très important. Et ce genre de joueur-là, Maroon, c'est pas lui qui va faire 3 buts 4 passes dans un match de série au printemps prochain, mais c'est le gars qui par son vécu du printemps dernier va pouvoir aider des joueurs du Lightning à mieux gérer des situations.
Oh oui, puis c'est pour ça que je te dis, moi je trouvais que ça a pas coûté cher, là, puis c'est un gars que t'amènes qui peut faire qui a toutes sortes de rôles, autant sur la patinoire qu'hors de la patinoire. Ouais. Je trouve vraiment que Julien Brisebois a fait un très très bon travail. Mais à partir de là, il faut que tu cibles quelles vont être tes faiblesses. Puis peut-être, est-ce que tu as besoin d'un petit peu plus de robustesse encore, advenant que ta première et ta deuxième ronde soient des rondes qui soient très, très physiques dans ta division.
Parfait. Un gros merci, François. Bonne soirée à toi.
Salut, bonne soirée.
À bientôt. François Paquette, le chroniqueur du mardi dans l'avant-match.